Salut à toi, camarade. Cette émission censurée avec le DAF derrière le micral, à la jactance et le Luca derrière les potards à la technique, on est en différé, les amis, à l'antenne d'RCN Radio Caraïbes-Nancy sur le sur les ondes 90.7 FM. Et sur la toile, c'est évidemment, comme d'habitude, le www.rcn-radio.org. Et ce soir, bah oui, nous sommes en différé. Alors, à l'heure exacte où je vous parle, et bah je crois que la manif de mardi 14, hein, puisqu'on est le 15 là ce soir, est en train de partir. Alors voilà, fidèle au poste, fidèle à l'antenne, fidèle au micro. J'espère que je pourrai rejoindre le cortège une fois que j'aurai fini d'enregistrer cette petite émission pour que vous puissiez l'écouter mercredi. Alors évidemment, j'ai pas toutes les données dans les mains, hein. Il manque une demi, un jour presque et demi. Ça fait un sacré décalage quand même. Tout se passe tellement vite à ce niveau-là. Donc alors, ce soir, j'en étais où ? Voilà, chers auditeurs, chères auditeuses, à l'heure où je vous parle, donc nous sommes le 107 mars 2016. En ce 1483e jour d'occupation hollande au Val-Sommet d'Effienne et 214e jour d'état d'urgence, faut que ça bourre, mais ça bourre. Grève générale encore, grève générale toujours, et ça démarre comme ça.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui courbe à nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'appliquent. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la démocratie. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est toujours la même supercherie. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie. Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre. Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire. Église, parlement, magistrat,
dictature et d'un militarisme. Patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un pur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Là, bienvenue et merci d'être à l'écoute d'Émission Censurée, les amis. Je suis content de vous retrouver à l'écoute d'Émission Censurée, évidemment, d'RCN, bien sûr, et et puis et aussi, évidemment, d'RCL Radio Campus Lorraine. Les amis, eh ben après ces deux semaines passées en compagnie des shérifs, je suis content de vous retrouver un petit peu en direct, enfin du moins en direct au micro, puisque nous allons renouer avec un petit thème ce soir. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, je crois. Ça va bien faire six semaines. C'est une sorte de trilogie, si vous voulez tout savoir. Voilà, trilogie que nous avons commencé exactement dans l'émission 256, qui date du 16 janvier, mars de cette année. Alors, c'était le 15e épisode de Faut que ça bourre, sous-titré Grève générale. Exactement trois semaines plus tard, à savoir le 13 avril de cette même année, nous avons fait donc le 16e épisode de Faut que ça bourre, qui était donc sous-titré Grève générale encore. La tentation était trop forte, de toute façon, avant qu'on ne se quitte pour la fin de la 8e saison, d'en remettre une troisième couche, nous faire une belle trilogie. Donc, on est en plein 17e épisode de Faut que ça bourre, sous-titré Grève générale toujours. Et en plus, ça rime et c'est même pas fait exprès. Voilà. Alors, comme ça, vous êtes au courant de ce qu'on va, de l'heure, de ce qui va se passer dans l'heure que nous allons passer ensemble, les amis. Et cette heure commence effectivement par un très très joli morceau qu'on a déjà eu souvent l'occasion de se passer dans Émission Censurée. Ce morceau, il s'appelle Révolte. Il est repris par René Binamé, comme vous l'avez évidemment deviné. Révolte, qui est un texte qui date de 1886 exactement, et qui aurait été écrit par Sébastien Faure. 1886-2016, ça fait exactement 130 ans, et ce morceau n'a jamais été autant d'actualité. C'est donc un vrai plaisir de se le remettre dans les esgourdes et les neurones pour le début de ce troisième épisode trilogique de Grève générale. C'est vrai que depuis le premier épisode, depuis donc janvier, mars, il s'en est passé quand même des choses. Ça bouge dans tous les sens et heureusement. Alors pour clore donc cette petite trilogie, au moins pour cette saison, mais avis que la saison prochaine il y aura de quoi aussi en passer des heures et des heures et des heures dans Émission Censurée avec des purs morceaux et des bons petits commentaires. Alors bon, voilà, j'aurais bien voulu, alors comment dire, je suis tombé sur internet sur un texte que j'ai trouvé vraiment foutrement intéressant et qui essaye d'analyser un petit peu le mouvement qui depuis trois mois, le grand mouvement social, hein, avec plein de, qui prend plein de formes différentes, qui est en train de prendre des proportions qui sont de toute façon dignes de la psychorigidité des gens qui sont en face de nous et de la violence aussi des hommes, des petits hommes en bleu. Moi, vous savez, j'ai toujours préféré les petits hommes verts que les petits hommes bleus. Ceci étant dit, voilà, c'est un texte qui s'appelle Le mouvement contre la loi travail, pardon, la possibilité d'un recommencement. C'est un texte qui est signé par Ugo Paletta, qui est sociologue, maître de conférence à l'université de Lille 3, et qui a été aussi écrit par Julien Salingue, pardon, qui lui est docteur en sciences politiques. Alors le texte, vraiment, je trouvais que c'était une bonne analyse. Et j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Et ce texte-là, il commence exactement comme ça. Voilà. Lorsqu'un mouvement social éclate, la tentation première consiste généralement à le jauger à l'aune des mouvements qui l'ont précédé, en se contentant parfois d'en comparer les slogans et les chiffres de manifestants. Il arrive aux participants eux-mêmes d'y contribuer en se laissant aller à singer les mots et les postures des soulèvements passés, comme le pointait d'ailleurs Marx, vous savez, tonton Karl, dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. C'est un livre qu'il a écrit qui est quand même vachement moins connu que les Capitales. Bon. Or, la signification historique d'un mouvement et son succès, immédiat ou posthume, ne sont jamais réductibles ni aux souvenirs glorieux qu'ils ravivent, ni au nombre d'individus mobilisés. À prêter trop d'attention à ces aspects, on en vient souvent à manquer les traits neufs qui annoncent des bouleversements imprévisibles et remodèlent la carte des possibles. Imprévisible, possible, ça rime, ils sont très très forts. C'est un fait que le mouvement actuel, dont les médias dominants ne finissent pas, depuis son émergence, d'annoncer le déclin, sinon la mort, a moins mobilisé numériquement, pour l'instant, que celui des faits de 2010 contre la réforme des retraites. De même, la mobilisation victorieuse contre le CPE en 2006 avait suscité des assemblées générales étudiantes et des manifestations plus massives. Pourtant, il se pourrait que le mouvement contre la loi Travail et son monde, qui inclut à l'évidence Nuit debout, ne soit pas le simple prolongement amoindri du cycle de lutte de masse ouvert par la victoire sociale contre le plan Juppé en décembre 1995, mais un recommencement, l'aube d'une nouvelle séquence de luttes sociales et politiques, faisant suite à des années de recul pour les mouvements sociaux. La possibilité d'une bifurcation politique. Un recommencement, d'accord, mais de quoi ? Bonne question. D'une contestation radicale du monde qui nous est imposé et de la vie qui nous est faite en régime capitaliste. Les mobilisations de masse qui en France ont scandé la période allant de 1995 à 2010 s'étaient contentées pour l'essentiel de remettre en question tel ou tel aspect des politiques de régression sociale. Elles s'étaient accompagnées, notamment avec le développement du mouvement altermondialiste, d'une affirmation utopique, salvatrice, un autre monde est possible, sans toutefois parvenir à formuler un projet stratégique de rupture et sans véritablement s'entendre sur la nécessité d'en finir avec ce monde-ci, façonné presque intégralement par et pour le capital. Le mouvement présent s'approprie cet héritage en radicalisant son tranchant contestataire et utopique. En effet, à force de répression policière, de surdité gouvernementale et d'arrogance patronale, ce qui semblait l'apanage des seuls militants révolutionnaires est devenu le sens commun du mouvement et de gagner de nouvelles franges de la population. Auto-organisation hors des cadres traditionnels, mais pas forcément contre eux. Anticapitalisme, bien au-delà du simple refus du libéralisme économique. Nécessité stratégique de la grève générale et de la convergence des luttes. De la jeunesse diplômée précarisée au quartier populaire en passant par les luttes de salariés et les combats environnementaux. Hostilité à l'égard des forces de répression de l'appareil d'État. Ces traits demeurent embryonnaires et on ne saurait garantir qu'ils essaimeront largement dans l'avenir, mais ils sont bien présents et ouvrent la possibilité d'une bifurcation politique future. Crise d'hégémonie des classes dominantes. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné, hein, je suis pas fier de vous. Cédric dit qu'elle... Déjà, oh, ça, c'est pas facile. Essayez de le dire chez vous, là, tout vite, vous allez voir, c'est pas facile. Cette radicalisation répond à la radicalisation des classes possédantes qui ont profité de la crise financière de 2008 et des attentats récents pour approfondir brutalement la contre-révolution néolibérale et autoritaire initiée dès les années 80. Elle s'enracine également dans une crise politique dont on méconnaît généralement la profondeur. Il ne s'agit pas, en effet, d'une désaffection passagère des lecteurs envers leurs représentants politiques traditionnels, mais d'une incapacité croissante des partis dominants et des classes dont ils défendent les intérêts à produire un consentement actif des populations à leurs choix politiques, à susciter des liens organiques entre eux et des segments significatifs des classes subalternes. Autant dire une crise d'hégémonie au sens de Gramsci. Gramsci, un grand révolutionnaire italien, je ne vais pas vous mâcher tout le boulot, allez chercher sur Wikipédia, vous trouverez bien des renseignements sur ce grand homme qu'était Gramsci. Dès lors, il importe peu de se montrer optimiste ou pessimiste devant le mouvement actuel, à moins de se complaire dans une posture de spectateur, comptant les points ou donnant des leçons. Mieux vaut enregistrer ce que la mobilisation a réalisé. Elle a notamment eu le grand mérite de jeter aux oubliettes la désastreuse idée d'une primaire de la gauche, qui n'aurait eu pour conséquence que d'accroître la personnalisation, gage de dépolitisation, ainsi que la confusion entre les orientations inconciliables portées par le PS et ses satellites, et la gauche de gauche. Le problème ne consiste pas à renouveler le mode de désignation de nos maîtres ou à substituer de jeunes et fringants professionnels de la politique dont le passage par les conseils d'administration des grandes entreprises garantirait la « modernité » entre guillemets, jusqu'aux chefferies épuisées des vieux partis. Invention encore balbutiante d'une politique déprofessionnalisée. Déprofessionnalisée, ça non plus, c'est pas facile à dire. Cette politique-là est morte, du moins dans sa capacité à produire durablement l'illusion d'un changement graduel du système, sans même parler d'une adhésion militante. Il ne survit qu'à l'état de zombie, sauvé de la décomposition par d'habiles conseillers en communication et des médias dominants rivés sur l'agenda électoral. De déclarations racistes en scandale financier, de discours creux en promesses non tenues, chacun peut constater la médiocrité doublée de servilité et de corruption de la politique professionnelle. Si le mouvement contre la loi travail et son monde a une autre vertu, c'est donc de laisser entrevoir ce que pourrait être une politique de l'opprimé, pour citer et pour parler comme le regrettait Daniel Ben Saïd, dont les camarades Salingue et... Salingue et Paletta sont apparemment de grands admirateurs. On pourra dire ça comme ça. L'heure est ainsi à l'invention, encore balbutiante, d'une politique déprofessionnalisée permettant à la majorité de reprendre ses affaires en main en annonçant la possible irruption d'une démocratie réelle s'épanouissant partout des lieux de travail aux lieux de vie. Ça suppose d'écarter dans un même mouvement ceux qui ont capturé à leur profit la puissance du plus grand nombre en s'octroyant un monopole de la chose publique et en mettant cette dernière au service de l'accumulation du capital, n'offrant comme seule fausse alternative au capitalisme mondialisé qu'un nationalisme putride. Le monde craque de toutes parts et la radicalisation des possédants menace de tout emporter, population et environnement compris, dans une fuite en avant toujours plus oppressive et destructrice. Seuls des mouvements populaires, démocratiques et anticapitalistes peuvent sortir l'humanité de l'impasse et résoudre l'énigme politique que le XXe siècle nous a laissé en héritage. Comment faire advenir une alternative à un capitalisme pourrissant sans engendrer des régimes despotiques fondés sur la domination d'une bureaucratie irresponsable. Voilà, le texte, l'article termine sur cette question fort intéressante et je vous laisse un peu y réfléchir pendant un petit peu de musique.
Yeah.
Maintenant, les jeux sont faits. C'est une, peut-être une petite pirouette pour illustrer le long texte que je viens de vous lire. Très, très bonne analyse qui implique de belles perspectives. Voilà, un texte qui va de l'avant. Et qui analyse un petit peu ce qui se passe. Quand on a la tête dans le guidon, c'est sûr que c'est pas évident forcément de se rendre compte des moments historiques qu'on est en train de vivre en ce moment depuis 3 mois. Et voilà, j'avais vraiment très très envie et très très besoin de partager ce texte avec vous. Donc entre Révolte et Les Jeux sont faits, un morceau de Les Shérifs, les amis. On s'en est fait quand même une bonne cure, hein, ces dernières semaines de Shérifs. Et ben hop, encore une bonne grosse louche. Pourquoi encore une louche sur Les Shérifs? Eh ben, figurez-vous que ça m'a énormément frustré de ne pas avoir, de manquer de 3 secondes à la fin de la dernière émission pour vous citer la source du dernier morceau de l'interview des Shérifs. Là, pour le coup, je passe un extrait du même album, comme ça je peux vous en parler de manière beaucoup plus tranquille. Les Jeux sont faits, donc un morceau des Shérifs au départ, repris en split par Justine et Bad Bat. Bad Bat qui est le chanteur-auteur de Diego Palavas. C'est ce morceau, aussi bien celui-là que celui de la semaine dernière, à savoir Pourvu que ça dure, des Fanatiques, il est issu du 2e volume de Génération Shérif. C'est un magnifique tribute, aussi bien le premier volume que le deuxième. Le deuxième, il est sorti seulement il y a quelques mois, en début d'année ou fin d'année dernière. Il est sorti chez Kicking Records et distribué par Piaz France. Et je ne saurais que vous le recommander très, très fortement. C'est un excellent tribute au Shérif. Voilà, d'où ma frustration de ne pas avoir eu le temps de faire cette petite précision. Maintenant qu'elle est faite dans l'émission d'après, on va continuer, les petits amis. Alors, je vous aurais bien fait une revue de presse parce que j'ai lu beaucoup de choses vraiment très, très intéressantes. Évidemment, dans les journaux alternatifs, qui sont, disons, les seuls lisibles dans lesquels on trouve pas toute cette mauvaise foi, ces mensonges éhontés, cette propagande vraiment putride, pour reprendre un des termes du texte que je vous ai lu. Là, je voulais juste, je viens d'attaquer hier, je crois, ou avant-hier, la lecture du dernier CQFD, journal alternatif marseillais. Le texte sera beaucoup moins long, c'est un petit édito, mais j'ai trouvé que ça résumait drôlement bien aussi tous les événements de ces 3 derniers mois. Alors cet édito, il s'appelle « Leur agenda est le nôtre ». Et il commence exactement comme ça, en plus par une citation, ouvrez les guillemets. La réforme du droit du travail voulu et imposé par... Attends, non, je vais le refaire parce que je maîtrise pas trop l'accent luxembourgeois, mais je vais quand même essayer. La réforme du droit du travail voulu et imposé par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu'il faut faire, a déclaré Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, dans Le Monde du 21 mai. Peu avant, Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, avait, lui, usé d'une formule délicieusement hypocrite. Je cite « Ce n'est pas mon rôle de juger la loi travail. Tout ce que je peux dire, c'est qu'une réforme est indispensable et qu'y renoncer serait une erreur lourde. » Fin de citation, dans 20 minutes du 18 mai. C'est sorti du bois des donneurs d'ordre de Bruxelles, nous rappelle que depuis un certain référendum sur le traité constitutionnel européen, les exigences libérales s'en battent l'œil des décisions démocratiques et des résistances populaires. Le jusqu'au boutiste Manuel Valls l'annonçait à une passante qui l'interpellait au salon de l'agriculture. La passante « Eh monsieur, la loi El Khomri, on n'en veut pas, hein ?» Manuel Valls « Eh bah oui, mais vous l'aurez !» Paf, tiens, fin de citation. Les gens, au cas où vous ne l'auriez pas encore bien compris, l'agenda de ces messieurs en costard est réglé avec la détermination de ceux qui ont toute l'attitude pour louvoyer, étaler leur mépris social sans borne, laisser pourrir les situations, taper dur et blesser les opposants dans leur chair. Épuiser les forces d'une mobilisation toujours fragile, par définition, et imposer leurs options à l'usure. Une même méthode expérimentée en Espagne, en Grèce, au Portugal et désormais en France ou en Belgique, comme on peut le voir dans les images, où en Belgique ça bourre bien aussi. D'ailleurs, dû exactement à la même loi. Ceci étant dit, hop, je retourne au texte. Ici, où la tendance à se focaliser sur le spectacle Excusez-moi. Ici, donc en France, où la tendance à se focaliser sur le spectacle politique national phagocyte toutes les humeurs, n'oublions pas ce que doit l'actuel mouvement de contestation aux occupations de place du 15M, espagnol, et leurs assemblées de quartier, ou à la combativité des Grecs qui encerclent leur parlement. Pour un peu, on se prendrait à rêver d'une synchronisation à l'échelle européenne, pour commencer, des protestations anticapitalistes. À ce stade, même si le rapport de force entre organisations syndicales et gouvernement semble tourner autour de l'amendement du texte et de son fameux article 2 sur l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est encore le retrait pur et simple de la loi qui marquerait une réelle victoire symbolique. Néanmoins, une telle reculade du pouvoir ne serait pour lui qu'une temporisation tactique, et pour bien des opposants à la loi El Khomri et son monde, l'enjeu de la bataille se situe désormais bien au-delà. Je cite « Que la loi tombe ou pas, que les flics s'acharnent sur leur logique de terreur, que les prochaines élections nous proposent encore de choisir entre la peste ou le choléra, comment continuer? Comment empêcher que la parole nous soit reprise? Comment fabriquer des lieux habitables pour nos aspirations communes ?» s'emballait un camarade de la rue Consola à Marseille. En tout cas, ce moment de contestation aura permis d'opérer une véritable inversion des normes et des discours incarnés par le MEDEF, la police et le relais médiatique. Ces jours-ci, un élu communiste tweetait « Une chose m'échappe, si ce sont les patrons et les entrepreneurs qui font tourner le pays, en quoi une grève de salariés pose-t-elle problème ?» Fin de citation. Le bon sens commun de la lutte des classes s'est réinvité dans la danse. Et l'important, c'est de continuer à danser. Et à danser sur notre propre musique.
We'll be right back.
Ça détend un petit peu l'atmosphère. Atmosphère, les fils de Tepu. Ah bah ouais, avec à l'attaque. À l'attaque avec un Q à la fin. Pas Q, ils ont dû oublier le U. Peu importe, hein, ce merveilleux morceau des fils de Tepu, ça fait du bien de s'en repasser un petit peu aussi. Il est issu du très bel album mythique, hein, carrément Content. Il s'appelle, vous l'écrivez comme vous voulez, Content. Il est sorti en 2002, cet album, chez Tepu Prod plus Small Axe, le tout distribué par Tripsicord et réédité depuis chez Irfan le label. À l'attaque. Voilà, ça me paraissait bien aussi, d'une part dans Faut que ça bourre et d'autre part dans Grève Générale toujours. On va passer à la suite, les amis, alors vite, parce que le programme est très très chargé, aussi bien au niveau des morceaux qu'au niveau d'entre les morceaux. Alors, je voulais faire une petite... entre le prochain morceau, qui est un morceau signé des Jambons, qui s'appelle Chacun son petit métier, qu'on a déjà eu l'occasion de s'écouter de temps en temps, dans Émission Censure. Mais je trouvais qu'il rentrait très 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 bien pour illustrer le propos qui vient, à savoir nous allons un petit peu ironiser sur Macron, vous savez le petit Emmanuel Macron qui qui est non seulement et tout marron, mais surtout derrière, hein, jaune devant, marron derrière, mais il a un petit peu tout chose, hein, le petit Macron, parce qu'il est harcelé de toutes parts, le pauvre. Alors il va à Montreuil et il se fait shampouiner avec des œufs. Il va à Nancy et on lui offre un bleu de travail, vous savez, puisque Macron lui-même puisqu'il paraîtrait d'après Macron que la meilleure façon de se payer un costard, ça reste quand même de travailler. Fin de citation. Il est magnifique, ce petit Macron. Hein, il est magnifique. Des grandes tartes dans la gueule à longueur de journée. Un petit punching ball. Mais bon, alors voilà, il vient à Nancy et là, il y a un risque de terrorisme social. Oh, un mec qui intervient alors que Macron était en train de laborieusement essayer de s'exprimer en anglais. Avec un accent vraiment encore pire que le mien, c'est pour vous dire. Alors, si vous voulez tout savoir sur cette histoire, vous avez déjà certainement vu ça à la télé, c'est même passé dans le zapping et tout. Si vous voulez tout savoir, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet du NJJ. NJJ, c'est un acronyme qui signifie Nouveau Jour J. Qu'est-ce que c'est le Nouveau Jour J? Si vous savez pas, pourtant j'avais déjà parlé plusieurs fois dans l'émission censurée, mais bon, peut-être que vous étiez parti boire une bière à ce moment-là ou uriner, hein, peut-être que vous écoutiez absolument pas. Donc pour tout savoir, allez voir sur le site du NJJ. Le NJJ, le Nouveau Jour J, c'est un putain de bon canard alternatif et indépendant à Nancy. D'ailleurs, il est tellement... il est bon, certes, il est d'autant plus bon que c'est le seul à Nancy. Youpi. Je sais pas, c'est un canard comme tous les canards alternatifs de France qui a besoin qu'on l'achète, pour qu'on le lise, qui a besoin d'un lectorat fidèle. Et qui, comment vous dire, moi je le lis depuis un certain temps. Alors, je ne le lis pas parce que je fais des petits Mickey dedans. Non, je fais des petits Mickey dedans parce que justement c'est un très très bon canard et à chaque page on apprend beaucoup de choses sur ce qui se passe politiquement à Nancy, ce qui est quand même une sacrée gageure. Voilà, je ne saurais que vous recommander, mais alors vraiment du fond du cœur, très très sincèrement et très très ardemment, la lecture et l'achat et le soutien du Nouveau Jour J, dont le prochain numéro va d'ailleurs très bientôt sortir. Où trouver le NJJ? Eh ben c'est simple, si vous habitez à Nancy, le NJJ est distribué dans tous les kiosques. Si vous habitez pas à Nancy, eh ben allez voir, demandez sur le site, vous démerdez, vous êtes assez grand pour vous débrouiller tout seul. Voilà, je voulais faire quand même un super clin d'œil ONJJ. Et voilà, je n'en dirai pas plus. Dans tous les cas, le nouveau jour J est très très bien savoir pour ça, très très bien placé pour savoir exactement ce qui s'est passé à cette espèce de réunion avec Macron. Macron d'ailleurs atterré hein, devant cette réaction. Et vous saurez en lisant le prochain NJJ pourquoi le NJJ est très très bien passé. Dans tous les cas, le morceau qu'on va s'écouter, donc chacun son petit métier, des jambons. Illustre parfaitement la morgue, la condescendance et le mépris des classes dirigeantes pour les classes laborieuses. Comme on le disait si bien à l'époque, ça ne nous rajeunit pas. Allez, vas-y, appuie sur le bouton, gros. Hey, hop là. Ouais, ouais, ça chpile. Ouais, c'est quoi ça?
Je suis un peu gros, un peu boutiné, et dans la Renault, je vais à l'Élysée. C'est pas moi qui conduis, non, c'est mon chauffeur, c'est son boulot à lui. Chacun son petit métier.
Faisons fi du code de la route.
La goutte de sueur qui perle sur mon front est là pour rappeler que la climatisation hier est tombé en panne, ça c'est inconcevable. J'appelle un spécialiste, chauffeur mon portable.
Plus qu'un homme d'affaires, je suis un vrai battant, si talentueux que naguère vous me fîtes président. Depuis 30 ans déjà, j'impose mes idées à vous qui n'en avez pas.
Chacun son petit métier.
Les riches en carrosse, les pauvres en citrouille.
Dites voir un peu chauffeur, qui sont donc ces gens qui défilent en ce jour en criant des slogans?
Je ne sais pas, monsieur.
Sont bien mal habillés, j'aurais honte à leur place. Policiers, qu'on les chasse, chacun son petit métier.
Toujours plus vite, toujours gagnant.
C'est comme ces gens du peuple qui veulent serrer ma main. Vous les verriez des fois baver sur le gratin. On dit que j'ai les mains sales, mais vous m'envoyez ravi, même si ça fait scandale, moi c'est pas du cambouis.
Plus qu'un homme d'affaires, je suis un vrai battant, si talentueux que la guerre, vous me fîtes président. Depuis 30 ans déjà, j'impose mes idées à vous qui n'en avez pas.
Chacun son petit métier.
Chacun son petit métier, fabuleux.
C'est bien joué, Virginie.
Ah bah tiens, plop, tap, tap. Tu t'es fait avoir, mon Lulu. Chacun son petit métier, donc merveilleux morceau des Jambons, issu du deuxième album sur trois des Jambons qui s'appelle Moderne, qui est sorti en 2000 chez ADMV et distribué par l'autre distribution. Et maintenant, nous allons passer, les amis, si vous le voulez bien, sur le front des intermittents. Vous savez, ces fameux parasites, les intermittents du spectacle, pour qui d'ailleurs a été signé un accord carrément historique qui revenait même sur la réforme de 2003. Accord historique signé par la majorité des syndicats concernés, exactement le 28 avril dernier, et carrément torpillé éhontément par le MEDEF et son petit toutou CFDT. Ça fait un drôle de nom, je vous l'accorde, pour un clébard, qui a été torpillé donc juste deux jours après. Alors du coup, occupation normale, hein, action-réaction, donc occupation pacifique du hall du MEDEF à Paris par 150 militants, alors de la CGT Spectacle et de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Résultat, 75 interpellations et un énorme, gigantesque coup de pied dans les couilles, gracieusement offert par Philippe Salmon. Philippe Salmon qui n'est autre que le directeur de la sécurité du MEDEF, qui a pris d'ailleurs ce magistral coup de pied dans les couilles. Sans avoir rien demandé, et ben c'est un camarade qui s'appelle Loïc. Loïc qui est le technicien, le techos, sondier et tout, d'une compagnie de théâtre musical que vous connaissez certainement, puisqu'on s'en est déjà passé un petit extrait dans l'épisode Grève Générale précédent, la compagnie Joli Môme. Loïc, qui est un ange, qui est un gars adorable, qui ferait absolument pas de mal à une mouche, hein, comme on dit, j'essayais de trouver autre chose, mais ça tombe comme ça, voilà. Alors, résultat, bah, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, figurez-vous que Loïc est resté 2 jours en garde à vue, qui va passer en jugement pour précisément le 5 août, puisque monsieur, comment il s'appelle cette grosse fête-là ? Salmon, Philippe Salmon a porté plainte, hein, pour agression caractérisée de coups de couille dans son pied. Voilà. Eh ben, les amis, pour fêter ça, nous allons se réécouter encore un petit morceau de la compagnie Joli Môme qui reste très très d'actualité. Pourtant, il date de 2007. Et ce morceau, il s'appelle Ya Basta. Vous allez voir, il fait vachement de bien aussi dans l'esprit. Solidarité,
Loïc.
Et maximum respect à tes couilles, camarade. Franchement.
La vie, la santé et l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?
C'était Laurence Parisot, présidente du MEDEF.
On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire.
On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta.
La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs.
La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs.
Les loyers, c'est la fête, mais pas pour t'attirlire.
Les loyers, c'est la fête, mais pas pour t'attirlire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta.
Les matraques disent de bien se tenir.
Les télés, les matraques disent de bien se tenir.
C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir.
C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta.
On te filme, on surveille tes soupirs.
On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs.
Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire.
Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta.
Sans papier, sans logement, juste bon à offrir.
Sans papier, sans logement, juste bon à offrir.
T'es de bras, ta sueur pour nos villes à construire.
T'es de bras, ta sueur pour nos villes à construire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta.
Mortons
ton voisin si tu veux réussir.
Mords ton voisin si tu veux réussir.
C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir.
C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. Ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, pas ça, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, pas ça, y'a. Y'a pas ça,
y'a pas ça,
y'a pas ça, y'a pas ça.
Hein, le morceau est fini. Yabasta, c'était un morceau de Compagnie Joli Môme, de la Compagnie Joli Môme, issu de leur avant-dernier album qui s'appelle Bastaya, Yabasta, Bastaya, sorti en 2007 de manière totalement autoproduite et autodistribuée comme tous les albums de la Compagnie Joli Môme. J'enchaîne, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, on n'aura pas le temps de blablabla. Bon, 1905, vous vous souvenez, 1905, c'est une date, c'est une année historique. 1905, séparation de l'Église et de l'État. 111 piges exactement après, eh ben, il est peut-être grand temps de séparer le MEDEF de l'État. La propagande et la calomnie qui fonctionnent à plein tube, là, en ce moment, eh ben, pourquoi s'en priver, hein? Plus le mensonge est gros, eh ben, plus il passe. C'est toujours les mêmes bonnes vieilles recettes, les bonnes vieilles méthodes. Les mêmes arguments surfaits. Alors, oh, regardez, les casseurs, alors qu'on sait tous que les premiers casseurs, c'était les flics. Les manifestants, les grévistes, ils nous prennent en otage. Alors, toujours, ça fait 30, 40 ans qu'on nous sort toujours les mêmes arguments. Et ce, toujours d'ailleurs, dans le même but, la criminalisation, ça aussi, essayez de le dire chez vous, c'est pas facile, la criminalisation du mouvement social. Alors, venant de la part de sociopathes psychorigides, pervers narcissiques, qui sont d'ailleurs tous au pouvoir. Quelle blague, quelle vaste comédie, quelle vaste comédie humaine, ce qui est d'ailleurs le titre du prochain morceau de Ridan que nous allons nous écouter tout de suite.
Moi, mon bon seigneur, ne serait-il possible de voir bien au-delà de la limite de ces champs où l'on cultive le mépris, la haine entre les gens, pendant que vous dormez sur ces coussins gonflés d'argent? Ne comprenez-vous pas, nous ne sommes point différents. Nous aimerions tout simplement nourrir nos enfants. Nous n'avons ni les biens, ni terre, ni même coussins que vous offrez si courtoisement aux tendres courtisanes. Je blâme votre honneur, tout comme celui de vos descendants, qui dans la file d'attente n'hésite pas à passer devant, le torse bombé d'orgueil, les poumons vides d'inspiration, à l'image d'un bon père qui exaspère tous ces millions de villes affamées qui jurent de vivre comme des damnés et qui pour eux sont prêts à tout pour que naisse la révolution. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux femmes de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine. Dites-moi, mon bon seigneur, entendez-vous la rage qui fait trembler la France et les pavés sur votre passage? Elle gronde les ruelles, les rumeurs se propagent, on brûle les calèches et le lion sort de sa cage. Soutenu par ses penseurs, d'insouciants révoltés, au salon parisien, l'absinthe a remplacé le thé, rendant la foule si ivre de toutes les libertés. L'individu est né par la force de son poignet. Qu'importe les barricades, le peuple a décidé. Les nuits seront terreur jusqu'à ce que l'homme trouve dignité. On arrache les symboles qui brillent comme une idole, qui trône sur la basse-cour rendant ces pauvres âmes si folles, qui rêvent d'un autre monde plus juste et plus honnête qu'une simple fête de roi où l'on partage la galette. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux fables de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine. « dites-moi, mon bon seigneur, entendez-vous la fin du règne féodal qui plane comme un champ? Le peuple a fait serment, pour vous les pas perdus. D'un revers de la paume, la France a su reprendre son dû. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces combats d'antan, de ces belles déclarations que l'on souille à chaque instant? Les rôles n'ont pas changé, en quelques décennies, la valeur de la vie s'aligne toujours sur le trottoir. Les gens n'ont-ils plus faim? Ont-ils un lit le soir? Mais qui donc joue la comédie sur le dos de mon histoire? Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux femmes de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine.
Voilà, la comédie humaine, les amis, un très joli morceau de Ridan qui est issu du dernier très joli album de Ridan qui s'appelle Madame la République. Souvenez-vous, il est sorti en 2012. On s'en est passé pas mal d'extraits cette saison-là. L'album que je vous recommande évidemment très fortement s'appelle Madame la République, je vous l'ai dit. Il est sorti chez Les Fleurs, Le Béton, distribué par Pias. Voilà, ce qui nous fait venir bientôt au dernier morceau, les amis. Difficile de parler de grève générale encore et toujours et jusqu'au bout sans effectivement aborder le thème de la répression policière des flics d'un côté et de leur hiérarchie de l'autre. Parce que c'est bien beau d'obéir aux ordres, surtout quand les ordres sont totalement fascisants. Hein, dans l'histoire de France, il y a une soixante-dizaine d'années, on connaît très très bien ça. Mais alors, ce qui est encore mieux, c'est de faire du zèle, c'est-à-dire d'obéir aux ordres en les outrepassant, en allant beaucoup plus loin. Alors bon, on peut se dire que la réponse est franchement à la hauteur de la trouille des puissants. De la prison ferme pour avoir exercé son droit de grève, ça c'est une bonne réponse. Combien de blessés d'ailleurs chez les CRS? Et combien chez les manifestants? C'est une question qui est intéressante, d'ailleurs, auquel il n'y a pas de réponse, puisque personne ne le sait, les chiffres n'existent pas. Ceci étant dit aussi, je voulais absolument aborder une bavure, si on peut encore appeler ça comme ça. Le 26 mai à Paris, pendant la manif, Romain Dussault, journaliste indépendant de 28 ans, blessé par éclat de grenade de désencerclement. Évidemment, on a tous et toutes vu les images, pas forcément toutes dans les médias dominants. Mais ceci dit, la question se pose aussi, bavure ou pas bavure? Sachant que deux CRS sont montés dans l'ambulance, pendant que Romain, en l'occurrence, était encore conscient, arrivé à l'hôpital, Romain dans le coma, pour cause d'œdème cérébral et d'enfoncement du crâne. Alors, sur Internet, ça a donné tout un truc. Alors, est-ce que les CRS sont montés exprès dans l'ambulance pour achever Romain? Ça paraît quand même gros. Moi, je suis pas là pour dire « Oui, il s'est passé ça. » Non, il s'est pas passé ça. D'ailleurs, personne n'est capable de le dire. Ce qui est vachement révélateur dans cette histoire, c'est la manière dont tout ça est en train de virer complètement à la paranoïa totale, vu de toute façon la réponse et la répression policière, hein, et on est bien d'accord, les flics, les CRS, les gendarmes mobiles ne font bien qu'obéir à leur hiérarchie, c'est bien eux qui donnent les ordres pour qu'on se retrouve dans des situations aussi surréalistes, ubuesques, d'une violence quand même très très rare. La dernière fois qu'on a vu une violence comme ça dans les rues, c'était il y a 30 ans exactement, en 86, qui a vu d'ailleurs la mort de Malik Houssekine par deux voltigeurs. Je vous rappelle les voltigeurs, c'était un mec au guidon d'une moto avec un autre derrière, avec une tonfa comme ça, et à pleine vitesse, il fonçait dans la foule. On vient de voir ça cette année aussi. Donc, cette histoire, une enquête va être diligentée, hein, par la police des polices, les boeufs carottes, comme d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'affaires. Je ne saurais donc vous dire que c'est très révélateur de l'ambiance et de la paranoïa qui est inhérente à la réaction des flics et de l'État. Nous allons donc, pour fêter ça, pour illustrer ça, je veux dire, s'écouter, alors fêter parce que c'est une version de Cayenne que j'ai dans la poche depuis un petit moment, je voulais absolument la partager avec vous, c'est Cayenne par le Racing Club Chorale. Ça vient du Tribute to Parabellum qui est sorti en 2009 chez Enragé Prod et Piquetos Prod. Et vous allez voir, c'est un pur bonheur à écouter.
Je me souviens encore de ma première fois.
Magnifique. Cayenne, donc, par le Racing Club Chorale, issu du Tribute to Parabellum, je vous en ai parlé. Alors, voilà, Cayenne. Cayenne, non, chanter Cayenne, non, dessiner Cayenne aussi, illustrer Cayenne, ce texte, mort aux vaches, mort aux condés, vive les enfants de Cayenne, abat ceux de la sûreté. Ce n'est pas un outrage à police, ce n'est pas un outrage à représentants de l'ordre. Je me comprends. j'ai pas le temps, de toute façon, de trop m'étendre. On va se quitter avec un dernier morceau, mais avant qu'on se quitte sur ce dernier morceau, je voulais vraiment conclure, en fait, parce que depuis le 31 mars, à savoir depuis l'apparition de Nuit Debout, c'est normal que le mouvement s'essouffle. Après 2 mois et demi d'expérimentation de démocratie directe, hein, c'est normal que le mouvement s'essouffle, et il s'essouffle pour mieux rebondir. Malgré ce qu'en disent les zélés médisants, plus rien ne sera comme avant. Quelque chose de profond a changé dans la lutte sociale et les rapports de force. On est à la croisée des chemins entre un vieux monde qui est en train de s'écrouler et un nouveau monde, qui est en train d'apparaître. On assiste là, en ce moment, en direct, à quelque chose de neuf et d'inédit. Et je ne parle pas que de Nuit Debout, mais de tout ce qui va autour aussi. À savoir, on assiste là à la naissance d'un nouveau et d'un vrai nouveau mouvement de fond à l'échelle mondiale. C'est pas quelque chose de sporadique comme tous les derniers mouvements de ces, disons, 50 dernières années au minimum. Non, là, il y a vraiment quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf qui va nous permettre dans les mois, les années, les décennies et les siècles à venir de rester debout. Rester debout, c'est un morceau des Tugs qui vient du tout dernier album des Tugs qui s'appelle Tout doit disparaître, sorti en 99, et voilà, restez debout, et on va se quitter sur ce magnifique morceau, les amis. Je vous embrasse, hein, bonne lutte, à la semaine prochaine. Là, à l'heure où je vous parle, hein, nous sommes toujours mardi après-midi, à l'heure où on enregistre l'émission. Si ça se trouve, quand vous allez l'écouter, cette émission, le gouvernement sera renversé. Et on peut rêver, merde, rêvons, on est là pour ça. Je vous embrasse, à bientôt.
Toute incertitude.
C'est dur de rester debout.